18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h, 20h sur Beurre FM. Alors pourquoi j'en rigole? Parce que j'ai cru que j'étais dans un rêve, le rêve du renouveau. Et finalement, je me retrouve dans un sac à batata. Parce que une belle pomme de terre, quand vous la récoltez, elle est belle, elle est jolie, etc. Mais si elle reste longtemps, elle commence à flétrir, à avoir du germe qui pousse, etc. Et vous me direz, mais pourquoi je parle ainsi de batata? Eh ben, c'est parce que hier, j'ai rêvé, j'ai bien dit j'ai rêvé, de revoir une sélection et j'ai vu une équipe quelconque. Oui, déçu, oui. Le score, peu importe. Quand vous avez un adversaire qui n'est pas costaud, malish. Mais je me pose des questions, je me dis, est-ce que ce groupe qu'on a vu hier est apte à jouer des matchs importants, d'éliminatoires? Là, on parle de Coupe d'Afrique, bien sûr, attention. Mais aussi, on se pose des questions, si je parle de renouveau, pourquoi n'y a-t-il pas, je dis bien, pourquoi n'y a-t-il pas une chance de, tout simplement, participer? Quand on fait du neuf avec du vieux, et qu'on fait juste, comme on dit, comme on le disait, une vieille expression kabyle, « The shoot the fool, the shoot the veuwen ». Le hajj Moussa, Moussa le hajj. Donc, on n'a rien vu, si ce n'est tout simplement que, ouais, le résultat, ça c'est l'essentiel, il est 18h02, c'est Fou de sport, jusqu'à 20h avec Sofiane et avec notre coach national.
Jusqu'à 20h, Fou de sport, sur Beurre FM. Beurre FM.
Je précise également que, avant toute chose, que cette équipe, l'équipe qui vous entoure chaque dimanche, sera en vacances dimanche prochain. Donc, je présenterai l'émission différemment. Et ensuite, je pense que ce sera la toute dernière de la saison, étant donné qu'il y aura une rediffusion aux alentours du 19 juin. Peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas encore de certitude, qu'il y aura une émission bilan le 26 juin, tout dépend. Si mes complices seront présents ou pas. Voilà. Bonsoir Sofiane.
Salut Mohand. J'espère que je salue le coach aussi qu'on n'a pas encore présenté, mais j'espère que ça va, que ça se passe bien du côté de la Normandie. Et quant à nous, on a eu une semaine foot qui a commencé sur les chapeaux de roue avec la finale de la Ligue des Champions africaines lundi.
Oui.
Et qui s'est conclue avec l'équipe de France jeudi et l'équipe d'Algérie
hier soir.
Donc voilà, pas mal d'événements foot ont eu des diverses fortunes. Ouais.
Et un petit rappel quand même pour nos auditeurs, c'est que à 19h, dans la deuxième partie de l'émission, l'association Vacandi sera ici avec nous, Malika Attaf, Bernard Menez, pour nous parler, après 2 ans de Covid quand même, du retour sur le terrain du foot, le terrain des joutes entre anciens footballeurs, pour une cause noble, une cause juste, celle du polyhandicap. Bonsoir coach.
Bonsoir Mohamed. Tu as oublié de raconter ton exploit d'avoir descendu à la voiture, revenir en 2 minutes. Mais 2 minutes chrono. Moi, ça, tu es unique. Vraiment, j'ai cru que tu allais sauter par la fenêtre. Mais bon.
Eh oui, ça c'est parce que ça fait maintenant, ça fait 8 mois que je marche 1 heure par jour.
Voilà,
ça se paye mine de rien.
Ah ouais, bah oui. Non mais ça fait une belle intro là. T'as fait quelque chose de très intéressant. Après, t'as vu, malade comme on est, dans l'état où on était, où on est, certains te diront, on a gagné le principal. C'est vrai, c'est très
important. On était dans un état polytraumatisé. C'est pas que traumatisé. C'est plusieurs traumatismes qu'on a vécu. Polytraumatisé, ça veut dire plusieurs.
On a vu le nombre de publics, les spectateurs qu'il y avait hier, soi-disant le fameux tribunal là, qui était en place. Là, j'ai rien vu du tout, moi. J'ai vu simplement une équipe qui n'est pas en place, qui joue sur un terrain qui n'est pas le sien, du tout. Et on a vu là, des grandes difficultés pour. Et de là encore, qu'ils n'ont pas marqué le pénalty. Hein. Parce que là, je peux te dire qu'ils auront un autre match encore. Mais bon, une équipe très moyenne, avec une équipe d'Algérie quelconque, on va dire, parce que les joueurs qui jouaient. C'est tellement de choses à redire. Quand je vois ça, je vois l'équipe de 2019, 2020, 2021, je me pose des questions. Hein. Ils sont où les joueurs? Mais vraiment, les vrais joueurs. Et là, tu as joué contre une petite équipe qui, logiquement, a dû en prendre 5-6. Donc, on va clore l'affaire. Bah, tu te retrouves petitement à marquer des buts qui deviennent extravagants. Après, le traumatisme, il est tellement énorme. On l'a vu hier, hein, sur le poids du traumatisme hier. On l'a senti même dans le public et tout. Bah, faut se relever. Hein. Et pour se relever, ça va être long. Ça va être long.
Oui, parce que Nasser, parce que le calendrier nous impose ces fameux deux matchs, ouais, juste avant la clôture de la saison.
Hein. Ouais. Mais on a parlé d'un match contre l'Iran.
Il y a un amical contre l'Iran. Oui,
oui, apparemment, il aurait été conclu. Ça, ce serait un bon match. Ouh. Parce que l'Iran se complique.
Oula.
À toi. Ouais.
À
Doha.
Ah, d'accord, ok.
Ah oui, c'est
pas c'est chez vrai. Nous.
Non, c'est à Doha le match.
Ouais, bah. Ouais, en gros, spectateurs ne venaient pas.
Ouais, on va dire. Bon, ouais, c'est bien. Ouais, c'est toujours des matchs. Ça va permettre à Jamel de reconstruire. Parce que là, il a les ruines. Hein. Faut déblayer les gravats et commencer à. Oui, j'ai pas vu quelque chose de très très rassurant, mais vraiment très rassurant, je l'ai pas vu. Hein.
On commence tout de suite sur le match de l'Algérie, du coup.
Oui, parce qu'on va arriver aux autres au fur et à mesure. Sofiane, ouais. Allez, on commence par Algérie-Ouganda. Ça s'est passé hier soir.
Il a des choses à dire sur l'Ouganda, notre ami.
Oui, non, mais je sais.
Vraiment, il va dire la même chose qu'il m'a dit hier.
Il va y avoir le feuilleton Delors, il va y avoir le feuilleton Aouar. Il y a beaucoup de choses à dire en première heure, bien sûr. Oh là là.
Ah oui.
On y va. On commence d'abord par le match. 2-0, on retient que le score. Après, il y a dans 3 jours le match contre la Tanzanie à Dar es Salaam.
Voilà. Ah, je connais bien le stade là-bas, j'ai joué là-bas. Ouais.
Non, mais sur le match, en fait, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'angles d'analyse pour voir le match. Si moi je pars du postulat de ce que j'avais dit, de ce que je pensais avant le match, c'est que bah, ce match-là n'avait aucun sens. Parce que il vient après un drame footballistique. Qu'on continue avec le même sélectionneur, donc je vois pas la cohérence et la logique derrière, et qu'on continue du coup avec le même sélectionneur, avec la même logique et avec beaucoup de joueurs qui sont identiques à ceux qui ont échoué. Bon, et donc après le match que je vois, bah, c'est qu'on gagne 2-0 dans un match où on a eu une adversité d'un niveau franchement, c'est enfin. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'Ouganda soit
à ce niveau-là. L'Ouganda, c'est une belle équipe et je ne m'attendais pas à ce qu'elle joue comme ça.
Ouais.
Honnêtement,
c'est enfin gardien de but, il lève les bras, il attend même pas la transversale. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est à un moment donné, vous voyez le coach yougoslave à côté. Et ça, c'est des matchs que normalement une équipe d'Algérie digne de ce nom. Moi, je me rappelle de ce qu'on parlait la semaine dernière d'équipes sous Gourcuff ou des équipes comme ça. On les tordait 7-8-0, ça jouait super bien. Ouais. Normalement, ça aurait dû se passer hier. Hier, on a vu que Belaïli a voulu faire son show sur le terrain.
Bah, il l'a fait.
Voilà, il a marqué son but dans un stade qui était aux trois quarts vide. Ouais. C'est triste quand même. Alors il faut en passer par là, mais moi encore une fois, pour faire transition avec ce que j'ai dit avant le match, c'est que moi je ne comprends pas, et ça va me permettre de donner la passe décisive à Nasser, s'il veut rebondir là-dessus.
Allez, une passe D pour le coach.
C'est comment, effectivement j'entends qu'on doit repartir et qu'on doit reconstruire, qu'on doit reconstruire après, parce qu'après l'échec forcément il faut repartir. Et comment avec les mêmes joueurs, avec le même entraîneur, avec la même... Et en plus, en changeant de stade, maintenant on repart au 5 juillet, qui n'est pas un stade qui nous porte, enfin porte chance non, mais qui n'est pas un stade qui nous réussit. Comment on va repartir? Et hier, la prestation d'hier, franchement, c'était d'une tristesse. Alors, tu gagnes le match 2-0, mais c'était une tristesse. Franchement, il n'y a que les 3 points à retenir, quoi.
Coach, je vois que M. Sofiane a les arguments pour. Hein.
C'est ta bonne école.
Il trouve être les arguments, mais il y a tellement de choses à l'intérieur. C'est vrai qu'on dit toujours qu'un homme, un projet. C'est les devises d'aujourd'hui. Hein, la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'un homme, un projet. Aujourd'hui, on se rend compte que oui, c'est clair que si l'Algérie ne se qualifie toujours pas pour la Coupe du Monde, et je mets des parenthèses encore, parce que mon ami Sofiane n'est pas... Et mon ami Ahmed aussi doit
m'en parce que tu m'as parlé de ce fameux jeudi.
Ouais, moi aussi.
Voilà.
Moi aussi. Et après, bah, tu rentres dans une espèce de tempête. Tu es dans une tempête là actuellement où tu dois mesurer réellement les conséquences, les causes de cette tempête et... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quoi? T'es dans la tempête, tout est explosé, parce qu'il faut employer les mots, tout a explosé, mais vraiment explosé en vol en plus, hein, c'est pas explosé avec des garanties que t'allais t'en sortir. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, hier, on a senti le vide, hein, vraiment on a senti le vide dans le stade, déjà d'une, parce que le public n'a pas répondu du tout. Donc ça veut dire aussi ça, C'est aussi ça.
Parce que oui, parce qu'on on lui a parlé d'un premier match éliminatoire de Cannes 2023. Ouais. Alors que la Coupe du Monde 2022 ne se joue qu'au mois de novembre prochain. Et fatalement, le public est encore sous le coup de l'émotion.
Oui, oui, mais on m'a dit qu'il y avait une aura pour le public et tout. Et moi, je connais très bien les gens d'Algérie, Algérie, je connais bien les effets du public. Hein. Ils viennent comme tous les publics du monde, ils viennent que si tu gagnes. Hein. Si tu gagnes, ils sont pleins, ils font la queue pendant des heures. Si tu perds, ça, ils n'acceptent pas. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est les choix des joueurs. Encore, toujours pareil, c'est les choix des joueurs. Et moi, je reste quand même sur mes...
Tes marottes.
Je reste quand même sur mes regards et mes analyses. C'est-à-dire que je n'ai rien vu hier qui m'a semblé quelque chose d'attrayant. Vraiment, hein, rien. Hein. Mis à part, peut-être, même Benacer, que je trouvais toujours excellent habituellement en match, j'ai trouvé un peu lymphatique. On est dans des postes et tout, dans des postes clés où on n'a pas la solution. Même le petit Ghezal m'a un petit peu... Pas déçu, mais je pensais qu'il y avait autre chose. Par contre, Belaïli, bon, il a fait un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu son show hein, individuellement, et on n'a pas senti d'équipe qui... de fluidité, de mise en place, de pressing ensemble, des choses intéressantes qui sont des éléments incontournables d'un match de haut niveau aujourd'hui. Et je dis heureusement qu'il ne marque pas le pénalty, parce qu'on est encore dans un autre match. Parce que si on fait un là, à ce moment-là, on est encore dans un autre match. Après, on peut dire ce qu'on veut. L'Algérie a gagné. Donc quand tu gagnes, ça t'ouvre la porte. Jusqu'à quand ? Jusqu'au prochain match. Le prochain match, c'est la Tanzanie, à Dar es Salaam. Je connais bien l'endroit là-bas. C'est pas mal du tout. Ça va pas être une mince affaire.
Moi, je te le dis. Non, parce qu'attention, la Tanzanie, ils ont une belle équipe nationale. Ouais. Je précise.
Ah, c'est surtout à l'extérieur en Afrique.
Le dernier match qu'on leur a mis, c'est 7-0 qu'on leur a mis en Coupe d'Afrique. Donc, c'est bon.
Je te parle chez eux, mais quand on avait attention, c'est à l'époque où on avait la belle équipe. Hein.
Oui, oui. Mais on va parler. Bon, maintenant, on n'a pas le temps aussi. Si on prend le temps, on aligne les joueurs. Il faut afficher les joueurs sur une feuille de papier. Les joueurs, le potentiel qu'on a, les joueurs qui sont là et ceux qui sont sélectionnés. Après, que tu, pour être clair, moi, je ne vois pas avec Djal parce que je sais qu'on n'est pas à l'intérieur du groupe. Donc, on ne connaît pas le fonctionnement de ce qui se passe. Moi, j'ai du mal à croire que des garçons qui sont issus des pays du Golfe sont meilleurs que des gens qui sont issus du championnat européen. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Du tout. Après, que tu me dises, mais non, lui fait, c'est bon. Que le Ben Ayada joue et que je le vois dans le jeu et qui, sur le plan offensif, n'apporte rien. Du tout. Très peu. Je pose des questions. On a le garçon qui a Clermont, on a Farhat qui est là aussi, il y a Tal, je ne sais pas pourquoi il ne joue pas. On a un gardien de but aussi, gardien de but qui joue à Angers. On ne le met pas, on met un gardien qui vient des pays du Golfe. Ça fait des ordres hein, dans ma tête. Hein. Moi, je dis, ou on m'explique. Bon, dans ce cas-là, j'écoute, hein, je suis attentif, tu m'expliques. Un et un fait deux. Mais quand je vois ça, je dis non, les gars, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Zéro qui est pareil, c'est quelque chose qui est... Tu sais, c'est comme un glaçon, ça devient de l'eau, ça se dilue, ça fait trois passes à l'intérieur, trois passes sur les côtés. Après, dans le jeu, il pète pas les lignes, il accélère pas, il n'y a pas de jeu. Mais il n'y a rien de qui te dit, voilà, on a une équipe qui se projette, qui va vite, qui combine et qui fait des choses intéressantes. Même si ça réussit pas.
Mais Nasser, hier, c'était clair et net, il n'y avait pas de vitesse.
Rien du tout.
Pas du tout, non, soyons clairs.
Au-delà de la vitesse, c'est même pas la vitesse, je veux parler. Je vais terminer. Ça, ces éléments-là sont là. Après, le pire pour moi, c'est le 5 juillet. Moi, je connais bien le 5 juillet parce que j'ai joué plusieurs fois dessus. C'est un stade anodin. C'est-à-dire que c'est un stade qui a perdu de sa verve parce que c'est un stade des années 80. Parce que c'est un stade qu'un mec a dit, il appartient à la génération des Madjer, des Belloumi, des Assad, parce que leur histoire a été construite là-dessus. C'est vrai. Mais nous, quand tu vois un stade digne de l'URSS des années 80, avec des tribunes qui montent je sais pas où, avec des pistes athlétiques, tu sentais même les joueurs, là, je sentais même dans leur place qu'il n'y a aucun repère. Je pense qu'on aurait été à Blida, ça aurait été beaucoup mieux pour nous. Parce que les joueurs connaissent. Quand tu connais, c'est mieux. C'est la palisse, hein. Quand tu connais, c'est mieux.
Est-ce que ce n'est pas... Oui, voilà, toujours cette histoire de malédiction. On a perdu là-bas, donc on veut faire oublier.
Moi, je vais te dire, ce stade-là, il a été nommé parce que tu as des journalistes, tu as des gens qui sont d'Alger, qui veulent aller au 5 juillet, c'est à côté de chez eux. Blida, c'est trop loin. C'est tout simplement ça. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 ans. Hein. Donc, ils reproduisent là le terrain-là. Et tu as les gens qui sont ici. Bah, tu as vu le public hier, personne. Ouais, je ne sais pas compris pourquoi Jamel a accepté ça. Hein. Non, tu es à Blida, tu ne bouges pas de Blida et tu fais là. Faites comme ils l'ont fait les Sénégalais. Ils ont construit un stade en deux ans, même pas en deux ans. Ils l'ont appelé Stade du Sénégal. Le stade, c'est un bijou. 50 000 places, mais un bijou. Un vrai stade de foot. Là, oui, on peut parler de Coupe du Monde, on peut parler de choses. Mais quand t'es encore en train de balbutiement, en train de vous expliquer qu'il y a tant, il faut faire, on a, tu mettais de l'argent dans des sièges, on renouvelle, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bon, bref. On connaît le fin mot de l'histoire. Donc, c'est tout ça, tous ces éléments-là font que, voilà. T'as un gardien de but en plus que j'ai vu hier, moi il m'a pas rassuré du tout. Mais après, j'ai dit du tout. Ça veut dire que je me suis posé vraiment des questions. Par contre, il y a Mandy, il était propre, Benacer, oui. Moyen, Ben Sebaïli, on a senti que c'était un peu fatigué.
C'est vrai, Ben Sebaïli, il faisait fatigué. Touba, il n'était pas mauvais non plus. Parce que, ouais, de toute façon, la future charnière, ce sera Touba, Mandy. Il y a aucun doute.
Voilà. Oui, mais il faut les mettre au niveau. Il faut mettre des confrontations. Si on veut se comparer à l'Ouganda ou à Djibouti et à ça, oui, bien sûr. Mais si je t'amène le Cameroun, je t'amène le Sénégal, je t'amène ces clubs-là, ces pays-là, tu vas voir que c'est pas la même. Tu vas voir ton niveau de ton équipe hein, rapidement. Après, je sais pas. Jamel, moi j'ai senti Jamel hier très froid, hein, mais vraiment une froideur incroyable. Même sur le banc, même quand ils ont gagné, j'ai senti que ça passe pas quoi. Ça passe toujours pas.
Hein. Je pense qu'il y a toujours cette douleur. Hein. Attention.
Ah là là. Je sais pas si on appelle ça la douleur, mais j'ai senti qu'il n'était pas du tout, même dans le match. On a senti que voilà, il faut être là, il est là.
Il y a eu la séquence sur le penalty.
Ouais,
oui, on l'a vu un peu s'exciter et Mboli le calmer par rapport à l'arbitrage.
Ouais.
Où tu sentais que Jamel allait repartir dans son truc.
Ouais, bah bon, ça suffit pas. Ça, voilà. Aujourd'hui, dans le niveau international, ça ne suffit pas. Mm-hmm. C'est plus ça qui est important, c'est tes choix, la pertinence de tes choix. J'ai bien la pertinence de tes choix. Ça, est-ce que tu as des éléments, moi j'ai pas compris, sur le banc de touche, il y a des garçons qui étaient là, qui sont du niveau européen et qui
ont fait une belle saison, qui ont répondu présent et qui ne sont même pas rentrés.
Moi je sais pas qui ces choix, moi il faut qu'on l'explique. T'as vu qu'en France, quand tu fais des choix, les journalistes demandent des explications. Voilà, il joue, il est là, il flambe, il marche. Même les journalistes te les proposent, les joueurs. Ils te le disent en France. Là chez nous, quand tu parles d'un joueur, tu fais sauter en l'air de la boutique. Explique-moi pourquoi Ben Yedda joue à la place du garçon de Clermont, qui joue en Ligue 1. Faut qu'on m'explique. T'es en train de me dire que l'espérance de Tunis, le champion de Tunis, est plus fort que le champion de Ligue 1. Mm-hmm. Pour donner des parenthèses, mais bon, ça veut rien dire aussi.
Et d'ailleurs, recruté par le LOSC pour l'année prochaine. Hein.
En plus. Ouais, en plus. Donc ça veut dire que nous, on n'a rien vu. Mais il y a des choses comme ça, il y a des choix comme ça qui m'ont. Mais ils m'ont toujours interloqué depuis longtemps. Hein. Moi, j'ai dit 2019, Jamel a été au top. Il a été au top. Il a mis les joueurs vraiment. J'aurais jamais pensé moi, mais sur ce que j'ai vu l'équipe tourner après la tournée du Qatar, là oui, on a trouvé une équipe d'Algérie qui était. Après là, depuis il y a eu 2 ans et là.
Belmadi, son mandat, tu peux le couper en deux. Il y a 2018-2020 où c'est plutôt une réussite. Mmh. Et depuis 2020, c'est-à-dire l'après Cannes, l'état de grâce qui a duré quelques mois, on sent que il tâtonne.
Il fait des choix, il tâtonne pas, il fait des choix.
Ouais.
Non, il fait des choix. Moi, je vais parler des Sofiani, des Boulaya, Belrahma, qui ne jouent pas, qui jouent dans les grands clubs, qui ne sont pas sélectionnés. Ça me pose question. Moi, c'est ça que je veux savoir. Ça me pose question. Pourquoi les raisons? C'est quoi les raisons? Puisque tu les as sélectionnés depuis 2 ans, 3 ans, tu les as amenés. Ces garçons-là ne sont pas là. Boudaoui n'est pas là encore.
Ouais.
Ne joue pas. Ounas, on l'a vu rentrer. Le peu qu'il a pu faire, on a vu des choses intéressantes. Pourquoi il ne joue pas? Mais c'est ça. Mais vous savez, il faut bien comprendre qu'une équipe, ça se joue à un joueur près. Hein. Quand t'as l'équipe qui tourne vraiment, t'as un joueur, tu modifies un joueur, ton équipe elle casse la dynamique, elle est cassée, ton équipe ne tourne pas, elle boite. Là, on a vu, on l'a vu avec les Tsunami, le garçon qui est en équipe de France, il rentre, il joue à côté de Kanté, c'est pas ça. Hein. T'es au-dessus, tu sens. Tu vois l'équipe, elle tourne pas. Elle avance pas. Entre Pogba et lui, il n'y a même pas photo pour moi.
Bien sûr.
Et là, tu vois la différence de l'équipe, comment elle tourne et comment elle est appliquée.
Très bien, coach. Ben, on va marquer une première pause dans cette émission. On va se retrouver juste après pour la suite de ce Foot de Sport. On va notamment parler de ces bruits de couloir sur Delors, sur Oussama Ouar, etc. Puisque il faut bien renouveler, il faut bien penser à donner du sang neuf. Quoique, hier, on n'a pas vu de sang neuf, alors que des joueurs ont été convoqués, ils ne sont pas rentrés. On va essayer de comprendre le pourquoi.
Foot de Sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de Sport sur Beurre FM.
Avant de revenir à l'affaire dite des Aouar, Delors, etc., je fais un petit écart. Ligue des Nations, où, à la surprise générale, enfin, surprise non, on a vu une belle équipe du Danemark face à l'équipe de France
Belle équipe du Danemark.
Costaud, Nasser.
Costaud, c'est belle. Oui. Ouais, on a vu une équipe qui défend à 11 dans les
ils ont gagné, quoi.
Au final, France 1, je dis bien France 1, puisque je joue au Stade de France, Danemark 2.
Oui, c'est ce qu'on appelle les fameux matchs. Le fameux match que tu voles, c'est le match volé, ça. C'est pas des résultats où t'as une mainmise de l'équipe, où elle nous a sorti des situations, des capacités dans le jeu à faire tourner en bourrique l'équipe de France. Non, on a vu une équipe qui s'arc-boute derrière et qui prend des contres et qui marque. En plus, t'as vu, ils défendent comme un Africain. C'est quand même fou que moi je connaissais dans les années 2000.
Oui.
T'avais des Africains qui défendaient comme ça dans les 16 mètres. T'as les Européens qui disaient, mais c'est quoi ça, cette défense là? Et ben là, je vois tout le monde pareil. Tout le monde dans les 6 mètres, ils sont tous sur la ligne de but, hein. Ils défendent dans des trucs, dans des zones.
En plus, ces garçons, c'est des garçons nordiques. Ouais. Donc, ils sont grands et baraqués.
Ah, va prendre. Déjà, le but, tu le vois pas. Ouais. Les filets, tu le vois pas. Après, c'est ce qui manquait, ce que me disait Sofia l'autre fois, c'est que ça manque des frappes de loin.
Ouais.
Ce qui avait, tu rappelles, les Allemands à une période.
Ouais.
Pour faire, c'est comme le handball, hein. Quand tu veux sortir les défenses, il faut que tu aies des joueurs qui, à 25, 30 mètres, mettent des frappes. Et ça. En plus, avec les ballons qui volent bien, là. Ça marche, mais là aujourd'hui, on a vu une équipe de France quand même poussif. Hein. Franchement, il n'y a rien à retirer l'équipe de France, si ce n'est qu'ils ont donné comme excuse la fatigue. Mais bon, la fatigue, on connaissait avant.
Oui.
Après, il y a la fatigue psychologique, qui, à mon sens, est beaucoup plus importante que la fatigue physique et qui prend le pas. Hein. Que Varane, que Mbappé se blesse, sachant qu'il a pris une béquille à l'entraînement et qu'il s'est réveillé le jour du match, et il aurait pu jouer, mais comme il n'a pas voulu prendre de risque, ils l'ont mis de côté. Oui, mais Benzema, il joue match sur match, il gagne les finales, il fait ça. Pour te dire qu'il y a des natures, il y a des natures, il y en a d'autres, il y a des garçons qui refusent, toi, dans le combat. Tu vois, pour t'expliquer ce que c'est que le renoncement. Ouais. T'as des mecs qui renoncent, il y en a d'autres qui renoncent pas. Et Benzema, quand tu le regardes, il renonce pas.
Pas du tout ce que j'allais dire.
Et dans les matchs, il sait que tout peut se passer dans un match. Il faut bien comprendre que dans le football, n'importe quelle situation, il peut se passer des choses phénoménales. Mais il faut mettre les ingrédients dedans. Et quand tu mets des joueurs comme ça, qui sont prêts à aller au combat, à aller au bout, c'est ce qu'avaient les Anglais avec le spirit qu'ils avaient et qu'ils mettaient spirit, et ils mettaient ça en plein. C'est-à-dire qu'ils ne lâchaient rien jusqu'au bout. Et comme par hasard, le match bascule. Parce qu'en face de toi, sur le plan mental, t'as des mecs qui lâchent. Et quand ça lâche, après, les Danois hier, oui, ouais, moi je dirais que voilà. Bon, après, l'équipe de France, ça va. Je pense qu'elle va.
Elle va se bouger. Rectifier le tir, comment
on dit. Oui, bien sûr, champion du monde comme ça pour rien. Et... Mais bon, les choix des joueurs aussi, ils sont...
Attention, on a pour la prochaine Coupe du Monde.
Des choix des joueurs sur
les... Ouais, j'ai regardé quelques matchs, j'ai suivi le superbe retour des Néerlandais, qui ont étrié la Belgique 4-1. J'ai vu une belle équipe aussi argentine face à l'Italie 3-0.
Ouais.
Le Brésil, c'est pas mal du tout.
Ouais,
je pense que aujourd'hui, là, pour la Coupe du Monde... avant, la France, elle sortait du lot, plus maintenant.
Oh, je ne suis pas d'accord. Moi, je dirais que.
Elle fait partie de top 5, top 6.
Oui,
favori 1, c'est compliqué.
Il faut bien comprendre que les joueurs de très très haut niveau, on appelle ça, ils ont une capacité à s'adapter selon l'équipe qu'ils rencontrent. C'est ça l'élément numéro 1. Quand tu joues le Danemark, qui a du moins chez toi. T'as peu de chance.
C'est ce que j'allais dire.
Tu joues le Brésil, tu joues l'Argentine, tu joues l'Italie. Tu vois les effets motivateurs, comment ils vont arriver. Tu vois les joueurs, comment ils se trompent jamais. Les joueurs, ils se loupent pas sur les grands matchs sociaux. Hein. Donc, comme t'as des très grands joueurs dans ton équipe, ils vont être là ce jour-là. Hein. Rappelle-toi la Ligue des Nations, c'est une période au mois de juin. Les Mbappé, les Benzema, ils savent qu'il faut être là. Ils ont été là, ils sont là. Tout le monde est là. Après, quand t'as des matchs comme ça qui n'ont ni queue ni tête et que t'as l'entraîneur qui est pas là, chose qui est très 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 importante. Ça a joué beaucoup. Et ben voilà, t'as une errance derrière, t'as des choix derrière qui ont été faits. Même sur le plan défensif, on n'a pas trouvé une équipe de France. Quand
oui,
Tsunami, j'ai pas trouvé extraordinaire, moi. C'était du ric-rac. C'est très fatigué. Eux, sentir très fatigué physiquement, c'est clair.
Après, il y a deux éléments. C'est déjà, t'as la période du match. Tu joues le match fin juin avec des joueurs qui ont joué 70 matchs dans la saison.
Oui, mais c'est une fausse excuse.
Alors, si tu veux vraiment aller dans la deuxième partie aussi, moi, je trouve, en ce qui concerne l'équipe de France, tu as quand même des interrogations qui sont soulevées par deux. Moi, il y a plusieurs joueurs déjà qui posent question. Varane, qui était un taulier en 2018, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Varane? Griezmann, pareil. Kanté, qui est en principe un super joueur. Là, ça fait quelques mois qu'on le voit plus trop. Et après, le deuxième aspect Nasser aussi, et moi, c'est sous cet angle-là que je vois le match, c'est que tu as un joueur comme Karim Benzema qui revient en équipe de France depuis un an, qui lui, tu sens que tous les matchs, il veut, il est là pour se racheter, pour gagner les matchs. Et je pense qu'il a vraiment faim de cette Coupe du Monde 2022, donc, qui aura lieu dans 4-5 mois. Là où autour de lui, tu as des joueurs qui ont déjà gagné et dont j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils vont pas, pour parler clairement, ils vont pas aller se battre pour Karim, quoi.
Il n'y a pas une notion de Karim ou pas Karim, ça. C'est autre chose, l'équipe de France, c'est l'équipe de France, c'est la nation, ouais, c'est pas Karim, on se bat pour que tu sois champion du monde.
Mais tu sens, pas que les mecs ont plus faim à la serre, le fait d'avoir déjà gagné cette Coupe du Monde.
Non, je pense pas, parce que ça se renouvelle, ces choses-là, chez eux. Faire un doublé Coupe du Monde, c'est énorme.
C'est rarement arrivé. Hein. Une fois, je crois, le Brésil, c'est tout.
Ouais. Ça peut le faire, là, encore. Non, c'est une histoire de.
Et puis, au début de la Coupe du Monde, dans les années 30, l'Italie en deux fois de suite.
C'est une histoire de groupe, de motivation et de cohésion. On peut lire qu'il y a des joueurs qui ont des choix qu'ils n'acceptent pas et qui acceptent aujourd'hui. Après, tu vas voir, comme je te dis, comme c'est des très très grands joueurs, ils savent, ils fixent le curseur sur l'objectif qui est la Coupe du Monde. Ils le fixent pas sur le mois de juin, sur le Danemark à domicile. C'est pas là que tu vas les voir. Tu vas les voir en Coupe du Monde et n'oublie pas que Deschamps sait faire en Coupe du Monde. Il sait très bien faire. C'est pas d'aujourd'hui, il se loupe rarement. Et là-dessus, il faut s'attendre à avoir une vraie équipe de France qui va être là, qui va défendre crânement sa chance. C'est ça l'histoire. Après, moi, je vois vraiment qu'elle a les possibilités encore de la gagner. Puis voilà, quand tu arrives au match, tu dis « Ah, c'est ça l'équipe ?» Oui, bien sûr, c'est ça.
C'est vrai qu'en France, il y a un réservoir de joueurs quand même qui... ça va.
Non, mais du réservoir, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui ont gagné, là. C'est la cohésion, elle est là. Mmh. C'est les joueurs qui ont joué avant, c'est pas ceux qui arrivent maintenant. Là, aujourd'hui, on voit le profil des joueurs, les joueurs qui sont là, l'équipe qui est en place, là, le groupe qui est en place, c'est celui-là qui va en Coupe du Monde. Il n'y a pas d'autres joueurs. Il n'y a jamais d'autres joueurs qui rentreront. Très peu.
Si, il y a des joueurs quand même.
Si.
Un exemple, je vais donner des exemples concrets. Ouais. Tu peux penser que, par exemple, le gardien de but. Tu peux penser que Maignan peut avoir sa chance.
Mais non.
Tu penses qu'il va y aller avec Lloris?
Ben bien sûr.
D'accord.
Si à 4 mois, il va changer le gardien de but. Mais tu crois que c'est la loterie, là?
Je te pose la question.
Est-ce que tu penses que Lloris va sortir, il va laisser Maignan?
Sauf grave blessure, à ce moment-là, oui.
Voilà, c'est ça. Oui. Mais jamais, à joueur égal, l'autre, il a une expérience que Maignan n'a pas du tout. Il a vécu. Comment il va venir, parce qu'il
est en plus capitaine de l'équipe de France.
C'est des choses où on peut même pas en discuter. Par contre, si, sur des postes comme ça qu'ils ont, c'est des postes de latéral, de stopper, sur le système de jeu qu'ils mettent, 3-5-2, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce qu'il va rajouter? C'est toujours les questions hésitantes. Et après, ça sera toujours l'histoire du joueur, le fameux joueur offensif qui va apporter aussi. Ce que disait tout à l'heure sur Griezmann, qui jouera aussi la Coupe du Monde. Le joueur qui est capable de remplacer Griezmann, d'apporter. Il pense sur Nkoukou, là. Ils sont sur lui.
Ouais.
Est-ce qu'il peut être là-dessus? Lui, ça, oui. Après, le restant, Pogba va être là, Kanté va être là, les joueurs vont être là, ils vont faire le match. Ils lâcheront pas les. Le mec de titulaire, il devient remplaçant. Ça existe nulle part, ça. Nulle part. Non, pas attendre à des choix.
Pour toi, France-Danemark, c'est quoi? C'est un accident?
C'est aléatoire. Eux, c'est aléatoire. Ils vont rectifier le tir. Là, tu les as mis en défaut. Tu vas recruter la Serbie contre la Croatie. Tu vas aller voir lundi. Ils vont faire le match.
La Croatie qui a perdu aussi chez elle. Hein.
3-0.
Ouais.
Et tu vas voir que ça va. Demain soir, tu vas dire ah ouais, en fin de compte, ils vont se bouger. Parce qu'ils savent que.
Du coup, est-ce que c'est pas les matchs de trop haut, là, avec toute cette saison-là, puis on leur rajoute la Ligue des Nations comme ça au mois de juin. Est-ce que quelque part, dans l'esprit des joueurs, il n'y a pas une espèce de ras-le-bol et de partir? Le fric, mais à la fin, l'être humain, ça reste un corps humain. C'est pas une machine, c'est pas un robot. Donc, physiologiquement parlant,
comme dirait chez nous, on va faire l'avocat du diable encore.
Oui.
On paye, tu joues. Ça va pas plus loin que ça. On paye, tu joues. Et avec ton avis ou sans ton avis, c'est comme ça parce que c'est la logique du système, elle est là. La télé ont besoin des matchs là. Tu as vu les programmes télé actuellement là? Tous les matchs qu'il y a au mois de juin. Ils n'ont rien à faire de tes joueurs et comment ils sont, est-ce qu'ils sont malades, fatigués, blessés, tu changes, t'en mets un autre, c'est tout. Nous, tant qu'on voit la marque qui est la fameuse virgule qui est là et qu'on voit les télés et le football, c'est ça, et les mecs qui payent, voilà, et il y a le retour. Et tu joues la Ligue des Champions, et tu auras la Ligue de ce que tu veux, la Coupe de je sais pas quoi.
Mais normalement, là, bientôt, on n'aura plus de matchs encore en juin, puisqu'il reste encore combien en Ligue des Nations une, deux journées, puis après, ça va être le mois de vacances. Tous les clubs vont se reposer. Mais qui vont faire les télés?
Bah, comme ils font habituellement.
Les navets.
Bah, avant, c'était programmé, il y avait le Tour de France derrière.
Ouais.
Bah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils placent les autres sports à travers le football. C'est le football qui prend la place. Et ensuite, derrière, ils collent les, ouais. ils collent les activités physiques et sportives des autres pratiques.
Oh,
et
puis,
on leur donne là un petit. Et d'un coup, toi, tu vois la campagne, la montagne, tu dis, ah, ça fait du bien. Là,
ouais,
ça fait
ils vont nous mettre les matchs amicaux, ils vont nous tenir en haleine avec le mercato. Enfin, c'est toujours pareil.
Ouais, c'est bon. La rangaise, elle est là. Voilà, elle a toujours été là, de toute façon.
C'est ça. Et puis ça reprend en août, c'est vite fait. Hein.
C'est clair, dans l'été précis, ça va très vite en plus.
Ah oui.
Et en plus, parce qu'une chaîne, par définition, une chaîne de télé, ouais. 100% sport, a besoin de matières premières. Sinon, elle va pas faire.
Laisse-les venir. Laisse-les venir. Attends, on avance de 10 ans, là. Laisse-les venir, ils vont arriver, la fameuse chaîne qui a tous les matchs dessus. Déjà, regarde aujourd'hui, regarde le nombre de matchs qu'elle a. Regarde, on est le 6 juin. Regarde le nombre de matchs qu'il y a. Et c'est pas terminé encore. 5 et demain, après-demain.
Mais je sais que déjà au niveau africain, il y a une prochaine journée qui se joue mardi, je crois. Déjà, l'Algérie, c'est le 7. Donc, c'est mardi en Tanzanie. Mm-hmm. Et ils ont fini leur match sur Alger. Ils prennent l'avion et ils partent directement là-bas. Voilà, comme tu l'as dit, Nasser. Pas de repos. On s'en fiche des
joueurs. But du pays de Galles.
Contre l'Ukraine.
Ah ouais.
Et je rappelle quand même que c'est un match. Alors, ce match de barrage, je le précise à nos auditeurs. Le vainqueur ira en Coupe du Monde. Soit l'Ukraine, soit le Pays de Galles. Pour l'instant, c'est le Pays de Galles qui mène à 0, donc qui est qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar. Dans un instant, tout à l'heure, on avait parlé d'une transition, puisqu'on a parlé, coach l'a bien dit, dans la tête de Deschamps, son groupe, c'est celui-là, et ce ne sera pas un autre. D'où peut-être cette fameuse décision de Houssem Aouar de revenir vers l'Algérie, parce qu'on l'a vu faire, on l'a vu faire des matchs quoi, interquartiers, c'est pas mal.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Fou de sport, la semaine sportive.
Ben vous savez très bien que la semaine sportive était agitée avec deux dossiers. On en parle, on sait qu'il y a des bruits très intéressants. D'abord, sur Andy Delors, on dit que il se pourrait que on utilise beaucoup de conditionnels, mais qu'une réconciliation à coup de grande campagne de presse ou de conférence, etc. et tout, pour expliquer le retour de Andy Delors en sélection. Bon, t'en as qui fulmine à l'image de notre coach parce que on aurait besoin de lui quand il fallait contre le Cameroun.
tu mets. Oui.
Non mais qu'est-ce qui a été fait comme tintamarre autour de l'affaire Delors et à la fin on dit bon on va essayer.
À partir du moment où tu es sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, tu n'appartiens pas à un club, ni à une ville, ni à une région. Tu appartiens au pays. Tu sous-entends que tes choix au détriment de ton affect et de tes prises de position, il y a une raison d'état qui s'appelle derrière. La raison d'état te dit que de fait, il est important que tu réunisses les meilleurs joueurs que tu penses, toi, qui peuvent faire un résultat. Pour dire, grosso modo, on ne peut pas être très pointu sur le discours. Est-ce qu'on pense que Delors aurait pu apporter quelque chose lors de ces deux matchs-là? Moi, je dis oui, tous les jours. Un, sur le plan mental, déjà, dans le groupe. Deux, le fait que des choses qui ont déclenché... les problématiques qu'il y a eu entre lui et... C'est des choses qui auraient pu se régler en off, sans passer par la presse, ou sans passer par le public. On se retrouve avec une histoire qui n'a rien à voir avec le joueur lui-même. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on apprend qu'en fin de compte, on peut s'entendre et on peut... Après, c'est... T'as une façon de fonctionner qui n'est pas claire pour moi. C'est-à-dire que même pas un mois ou deux mois après, tu annonces que les choses pourraient s'arranger. Ouais, bah, ce qui aurait pu s'arranger il y a deux mois aurait pu s'arranger aussi deux mois avant, où on aurait pu avoir, même sur le banc, un garçon qui aurait pu finir le match ou commencer le match. Ou... Et en plus, je vois un peu la puissance de feu qui est capable, ce garçon-là, dans le jeu, est capable de marquer, de nous en faire marquer. Et je pense qu'on aurait eu encore un atout offensif très intéressant. C'est dommage parce que voilà, c'est, aujourd'hui on se retrouve dans des vraies problématiques. Et c'est compliqué parce que ça engendre beaucoup de choses dans ce dossier-là. Il y a l'humeur de Jamel, il n'accepte pas ce qui s'est passé. Et le fait que ça vienne coïncider avec les problématiques avec Mahrez, tu vois, tout s'est collé l'un derrière l'autre.
Absolument.
Une suite logique.
On peut le dire là, ça.
Ouais, une suite logique a fait que, voilà, après, Jamel est arrivé très énervé en conférence en disant non, pas question, il tape RMC, la voix de son maître, comme dirait l'autre, mais bon, moi, c'est pas mes créneaux. Je pense qu'il aurait pris un peu plus de recul, ou les gens auraient dû lui donner plus de recul pour qu'il...
Pourquoi, Nasser,
je pense ça, moi, plus
simple. J'ai posé une question ordinaire, une question basique. Je m'adresse au sélectionneur. Pourquoi Jamel ne vient-il pas dans un média comme le nôtre, qui est là, qui l'a toujours soutenu, et qui est toujours derrière l'équipe d'Algérie? Pourquoi ne vient-il pas ici pour faire entendre sa voix plutôt que de s'adresser à des médias qui ne nous aiment pas?
Ouais, comme dire l'autre, oui.
Oui, non, mais franchement.
Il faut lui poser la question.
On se pose. Non, mais je le lui dirai, moi.
Mmh. Oui, mais.
Je le lui dirai en face quand il sera un jour, je l'espère, ici. Oui, je lui dirai, écoute, Jamel, pourquoi sachant que tu connais la France, tu connais la station, tu connais la radio, tu connais notre public. Pourquoi ce n'est pas cette radio que tu choisis pour donner ton point de vue? Voilà.
Ouais.
Moi, je le lui dirai, Nasser.
Bah oui, mais bon, c'est aussi ça qui... Moi, j'y étais en place, donc je sais que aussi,
oui.
T'as besoin du média aussi français pour...
Il faut les deux, il ne faut pas
pouvoir,
pas sens unique,
pouvoir,
c'est ça que je veux dire.
Ouais, pas pour, ouais. Ouais, c'est ça, bien sûr.
Bah oui.
Pour pouvoir expliquer à tout le monde que, voilà, il y a ça. Après, il y a... Il y a ce que lui peut penser d'un média comme Radio Beurre. Le problème, c'est que bien sûr que ça lui ferait beaucoup de bien,
bien
de venir
sûr.
Là et de venir s'expliquer. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être les gens autour de lui ne lui parlent pas. Ou pour lui, dans la nébuleuse où il est, il n'a pas compris qu'il en avait besoin. Il en a besoin en plus pour s'expliquer, parce qu'il serait intéressant de l'avoir en face et de discuter avec lui.
Ouais.
Sans obligatoirement prouver qu'il a besoin de se justifier, parce que c'est lui le sélectionneur. Mais expliquer, donner des arguments pour faire comprendre qu'il y a un moment, on comprend pas pourquoi ça marchait à une période-là et pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui avec les mêmes joueurs. On n'a pas entendu un joueur qui était à la retraite à 36 ans, 37 ans, là, pour l'instant, non. Faut savoir que Nadal, il gagne le Roland Garros, il a 38 ou 36 ans, hein. Il gagne encore, hein.
Oui.
Il a 36 ans. Non, mais pour te dire, on est à ces niveaux-là. Moi, je pose des questions. Et après, bon, moi, les réponses, on les a eues, de toute façon, les réponses, hein.
Et puis, après cette histoire d'Andy Delors, il y a l'histoire aussi Oussam Aouar. Et c'est, alors, Oussam Aouar fait partie de ce qu'on appelle la jurisprudence Mounir El-Haddadi. Il faut se rappeler que ce joueur-là, il a été convoqué une fois en équipe d'Espagne, puisqu'il jouait au Barça, et il n'a plus jamais été rappelé. Et la FIFA a créé une jurisprudence qu'on a appelée la jurisprudence Mounir El-Haddadi. Il a pu maintenant... rejoindre l'équipe du Maroc, il joue avec les sélections du Maroc, et Oussam Aouar, ayant vu que la porte de l'équipe de France est vraiment fermée pour les deux voire quatre prochaines années, alors il se dit son seul espoir de faire une Coupe du Monde maintenant en 2026 ce serait l'Algérie. On est en 2022, il a le temps de préparer ce fameux passeport de la nationalité active, etc. Et tout, quoi. Non, mais c'est ce que je lis. Et c'est ce qui se dit même au pays, quoi.
Ça donne de l'eau à...
Oui, bah oui.
Bah oui, le moulin, comme dirait l'autre.
Oui, bah, puis, oui,
ça
nous fait travailler. Moulin, aussi.
Ouais, mais il y a des gens qui te diront, nous, tant que tu viens pas avec le cœur, ça ne nous intéresse pas. Là, tu viens avec des intérêts. Ça peut se comprendre. Ça peut s'identifier. Le problème, c'est qu'on va dire que tu es un garçon qui est algérien et qui, sous ses choix à lui, les choix n'ont pas été pernicieux. Donc aujourd'hui, qu'ils viennent... Moi, je me pose la question, c'est si l'équipe d'Algérie était qualifiée avec les joueurs qu'on avait, si on l'aurait accepté. Je pense pas.
Oui, non, mais la porte serait vraiment fermée.
Voilà. Là, aujourd'hui, comme on est boiteux, on va chercher quelqu'un qui va nous donner un coup de main pour Prends le boitage, prends le.
Je rajoute à ça aussi que Oussama Aouar, c'est un joueur sur lequel il y a eu énormément d'espoirs qui ont été fondés sur lui, comme beaucoup de jeunes joueurs.
Bah, comme l'était Nabil Fekir.
Entre autres, énormément de joueurs. Mais tu te rends compte aujourd'hui qu'en équipe de France, en termes de milieu de terrain, c'est bouché, quoi, c'est bloqué. C'est bloqué. Et qu'en plus de ça, Aouar, bon joueur. Maintenant, dans le football moderne, dans ce qui est attendu, dans ce qu'on attend d'un milieu de terrain moderne, Aouar, quand même, c'est pas. C'est... Tu te rends compte qu'on est, par exemple, si tu prends l'équipe de France qui était son premier choix, il y a au moins une quinzaine de joueurs devant lui aujourd'hui. C'est aussi ça aussi qu'il faut dire clairement. C'est que l'avenir en équipe de France pour Aouar s'inscrit en pointillé. Donc, bah, qu'est-ce qui reste derrière? Il reste la sélection algérienne qui. Voilà, malheureusement.
Oui, parce que la sélection algérienne, elle part sur un échec. Aujourd'hui, le problème, elle part sur un échec. Et puis, pour combler un petit peu la frustration des Algériens, on leur dit, on fait revenir celui-ci, celui-ci va signer, etc. Donc, ça donne aussi de l'espoir aux supporters. Oui, on va rebâtir une nouvelle équipe. Mais si tu lui laisses les joueurs du Moyen-Orient encore dans la sélection, ben, comprends la réaction du 5 juillet aussi.
Le problème, c'est que tu as des joueurs qui n'imposent pas leur diktat. Quand je dis diktat, ils n'imposent pas leurs idées. Mahrez, avec le statut qu'il a, se doit d'imposer les joueurs qu'il veut dans l'équipe. Même si c'est pas bon de le dire, même si c'est pas bien, mais ça se fait partout.
Bah,
les coachs prennent en considération le statut de leurs joueurs et leurs considérations. Ça, c'est clair. Le problème de Mahrez, c'est qu'il est dans une logique où on fait... Bref, on fait semblant. Et là, aujourd'hui, comme Jamel veut reprendre la main, parce que c'est ça l'histoire, tu vois, il est capable de dire que Aouar, il va créer beaucoup de polémiques. Hein. Tu sais, en plus, ça va pas être simple, cette histoire-là, d'accepter aujourd'hui, parce que t'as un problème de nationalisme chez nous qui est énorme, et que les joueurs ne peuvent pas accepter que le mec vienne. On a eu une polémique, tu te rappelles, il y a quelques années, sur les joueurs qui voulaient venir là, et qui sont pas, et qui viennent pas avec leur cœur. Parce que l'histoire du cœur, c'est l'histoire de ton choix. T'as un Benacer qui a fait son choix depuis longtemps, il l'a fait là, mais bon, après, t'as vu, t'es vite emballé, et on te met après dans tout ce qui se passe. Alors, est-ce qu'Aouar peut amener quelque chose en Afrique? C'est ça la question. La vraie question, elle est là. Est-ce qu'il peut amener quelque chose dans le football africain? C'est compliqué, là. Vu sa technique, vu la fragilité du joueur, et vu ce qui se passe, tu vas dire, est-ce que c'est une arme, ça? C'est compliqué, les gars. Et rentrer dans une équipe qui est là, qui est en phase de turbulence, imagine qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde, là. C'est peut-être ça aussi. Non, mais c'est peut-être ça aussi.
Ah oui, d'accord.
Pourquoi il vient là aujourd'hui? On lui a donné peut-être des garanties. Parce que lui, il vient pas comme ça pour le plaisir de ce qu'il en est, sinon il reste à sa place. Peut-être qu'on lui a donné peut-être des garanties sur certaines choses qui vont se passer.
Il risque d'être déçu.
Peut-être, je sais pas.
Non, mais attention, je rappelle que coach parle d'hypothèse, et hypothèse sur laquelle aujourd'hui, moi-même, je ne parle pas, j'évite.
Bien sûr. Voilà. Mais c'est aussi une condition qui a été proposée à Aouar. C'est pas simple d'amener à Aouar, hein. Tu crois que tu l'amènes comme ça sur un coup de tête? Il vient comme ça sur un coup de tête, jamais. T'es fou, toi, jamais de la vie.
Après, Aouar, c'est quand même un joueur qui a disparu des radars, Nassir. Hein.
Non, il est à Lyon. Il est comme une meilleure équipe de France.
À Lyon.
Et là, il va signer là ou il signe où?
Non, mais à Lyon, cette année, il n'a pas joué, Nassir. Hein.
Ouais, j'ai beaucoup. Ouais, si, il a fait beaucoup de matchs. Il est rentré beaucoup de fois.
Non, mais c'est regardé, mais il a perdu sa place.
Mais c'est quand même le bon joueur à voir. Attention, c'est. Sofiane.
Non, mais c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est élégant, qui est fin techniquement. Mais après, si le football.
Sofiane, tout ce qui dépasse pas 8 jours, calcule pas. Si t'as joué dans les 8 jours, t'es un bon joueur. Si tu joues pas, il y a un problème.
Ouais. J'ai pas compris la blague,
c'est 8 jours. Si pour toi, dans les 8 jours, il est pas là, pour toi, c'est pas un bon joueur.
Joueurs,
il a un parcours quand même. Il a un grand parcours. Il a quel âge aujourd'hui?
Je crois 24 ou 25.
Ah, ouais. 24, 25 ans, il est quand même un joueur décisionnaire à Lyon. Il a été quand même une période.
Oui, il a été.
Bah, c'est peut-être aussi le fait de.
Nasser, moi j'ai toujours entendu qu'un grand joueur, c'était dans la durée qu'on le voyait, dans les grands matchs, dans tout ça. Moi j'aime beaucoup le joueur, c'est pas la question. C'est un joueur qui.
C'est toujours pile ou face, toi.
Non, mais Nasser, c'est pas assez.
T'as pile après Fulham.
Mais Nasser, c'est un bon joueur à voir, mais aujourd'hui, il y a 3-4 ans quand
c'est. C'est un bon ou un très bon joueur?
C'est un bon joueur de Ligue 1. C'est un bon joueur de Ligue 1. Non, mais Nasser, des mecs comme ça, on en a eu des dizaines, des Kamel Meriem, machin, on nous a sorti. Nouveau Zidane extraordinaire. Frère, moi t'as vu ça, j'en ai soupé. Aouar, c'est un bon petit joueur, y a pas de problème. En attendant. Là, je me demande pourquoi il n'y a pas un très très grand club qui soit là. On parle du Betis Séville. Ah, magnifique. Il y a 3 ans, on parlait de Manchester City, la Juventus. Betis Séville, peut-être. C'est même pas sûr. Ouais. Soyons sérieux.
C'est un problème psychologique qu'il a.
Peut-être. Ah, c'est possible. C'est possible.
Nabil Fekir, c'est quoi?
En attendant, si tu me dis, il est à Lyon, ce que tu veux, Lyon, ils ont fait, je crois pas qu'avec Aouar, le fantastique Aouar, ils aient fait une très belle saison. Ils ont fait quoi? 8e, 9e?
Ouais.
On part de Lyon.
Ouais.
Voilà.
Et moi, cette année, il me semble pas qu'il ait cassé la baraque, qu'il ait joué tous les matchs. Voilà, il faut aussi dire qu'Aouar, c'est un joueur qui, depuis 2 ans, est complètement sur le déclin.
Il a un entraîneur, c'est un Hollandais qui lui demande de faire des courses de ouf quand lui, il a jamais couru de sa vie. Ah, c'est compliqué, ça aussi, hein. Dans les choix des staffs, attention, les choix des entraîneurs, hein. Ce qu'il te demande, faut bien comprendre qu'il y a, c'est pas un entraîneur banal qui vient. C'est un entraîneur qui vient de l'Ajax et qui nous propose de faire du pressing haut niveau, de faire des courses à très haute intensité et tout le temps, quand lui, il a jamais fait ça de sa vie, hein.
Ah, c'est comme il m'a dit,
Nabil Fekir est parti. Pourquoi il est parti? Pourquoi Nabil Fekir est l'un des meilleurs joueurs à Betis ou en Espagne? Il joue. Là, tu dirais s'il viendrait chez nous. Là, tu te dis ce qu'il
fait. C'est un très bon joueur, Fekir. Mais
Ça m'a toujours dit que la taille du Maghrébin, elle est compatible avec le football espagnol. On arrive à la fin de cette première heure. Dans un instant, l'association Vacandi, les polyhandicapés, en compagnie donc de Malik Attaf et de Bernard Menez.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Foot de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Deuxième heure de Foot de Sport consacrée à une cause juste, une cause pour laquelle se battent des femmes, des hommes, afin d'améliorer le quotidien des malades. Il faut savoir également que les 2 années de Covid ont fait beaucoup de dégâts. Naturellement, vous l'avez remarqué, on n'a pas pu assister à des manifestations sportives, on n'a pas pu se rencontrer, voir ses amis et surtout donner un peu de joie, rendre les gens un petit peu plus heureux. Il se trouve que malgré ce petit trou, là pendant 2 ans, on a eu ce qu'on appelle un moment de répit. Le moment du répit, c'est le déconfinement. Fort heureusement d'ailleurs, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous proposer cette émission avec l'association Vacandi. On a l'habitude de recevoir chaque année et le parrain de cette journée, mais également la présidente, sans oublier tous ceux qui contribuent et qui œuvrent pour que cette journée soit un moment inoubliable, un moment de partage et un moment de fraternité. Je vais saluer ceux qui sont arrivés parmi nous. Et je vais commencer par la présidente Malika Attaf. Malika, alors je vérifie. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à toutes et à tous.
Oui. Alors,
bonsoir Mohand.
Voilà, ce serait bien que tu sois bien à fond dans le micro.
Voilà, c'est bon là.
C'est bon comme ça.
Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Mohand. Et je suis vraiment ravie d'être à nouveau parmi vous.
Également, il ne loupe pour rien au monde ce rendez-vous ici à Beurre FM, puisqu'il a maintenant pris un petit peu, on va dire, l'habitude de visiter nos studios. Il est comédien dans la vie, c'est un homme de théâtre, mais les causes justes, il aime aussi les défendre, c'est Bernard Menez. Bonsoir Bernard.
Bonsoir, nous sommes partenaires avec Vacandi,
ouais.
les polymusclés, équipe de foot emblématique créée en 1963 et qui maintenant œuvre aussi pour la cause handicap. Donc tout naturellement, on travaille main dans la main avec Vacandi pour cette journée.
Alors il se trouve qu'on a passé 2 années terribles au cours desquelles d'ailleurs on ne s'est même pas revu. On a l'habitude ici sur ce plateau de raconter un petit peu tout ce qui se fait à travers les actions, à travers ces matchs et tous ces anciens footballeurs qui viennent, qui apportent de la joie aux enfants. Et bien pendant 2 ans, patati patatra, comme on dit chez nous, Wellou, zéro pointé. Et fort heureusement que ça y est, on nous a ouvert les portes, on nous a démasqué, excusez-moi du jeu de mots, hein. Et cette façon a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici en direct pour parler de cet événement qui, je vous le rappelle, est programmé. Je suis en train de préciser la date, merci de me la rappeler, Malika.
Le 25 juin.
Très bien, voilà.
Sur le stade de Léon Rabault, sur l'île de Puteau.
Très bien, voilà. Samedi 25 juin, bien entendu, le parrain aussi cette journée, notre grand Moustapha Taleb.
Ah bah, rien ne peut se faire sans lui, hein. Je ne l'aurais pas fait sans lui.
Ah, d'accord.
Oui, non.
Ah, oui. Bon alors, Malika ou même Bernard, parlez-nous un petit peu de d'abord, avant de parler de cet événement aujourd'hui, on va y revenir, on a une heure devant nous, mais surtout, ces deux années de malheur, comment avez-vous travaillé, comment avez-vous agi avec ceux qui ont ce lourd handicap dans la vie?
Alors, ces deux années de malheur, comme tu les appelles, donc il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier.
Oui.
Malheureusement, j'ai dû suspendre, compte tenu de toutes les restrictions, les interdits de faire ceci, interdits de faire cela, etc. Donc, j'ai suspendu un peu les activités de sortie de Vacandy. Hein, oh. Donc, une année, je ne les ai pas emmenés en montagne. De façon régulière, chaque année, je prends un petit groupe de personnes handicapées, je leur fais découvrir la Haute-Savoie. Dans toute sa splendeur, donc aussi bien. Normalement, je le fais en hiver. Et là justement, compte tenu que nous étions encore en petite restriction durant l'hiver, donc le séjour en Haute-Savoie aura lieu du 3 au 10 juillet prochain. Voilà. Donc,
c'est déjà une première bonne nouvelle.
Tout à fait, tout à fait. Ils sont vraiment heureux, ils sont impatients de faire ce petit séjour.
Et qu'avez-vous fait justement pendant ces deux années où il ne s'est rien passé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez quand même gardé le contact familles, avec les enfants? Parce que c'est quand même important de dire aux gens, à ceux qui nous écoutent, qu'on n'a pas passé deux ans à nous enfermer nous aussi dans notre bulle. Non, on a agi.
Le lien n'est jamais coupé, hein, oui. Parce qu'on les a au téléphone, on discute, on remonte un petit peu le moral. Bon, le lien n'est vraiment jamais coupé. Malheureusement, j'ai pas pu effectuer toutes les sorties, tout le programme que j'avais prévu, compte tenu de la situation. Mais bon, ce n'est que partie remise. Hein. Tout recommence normalement. Donc, à la rentrée, il y aura peut-être une sortie. À la rentrée en septembre, si bien sûr, nous n'avons pas de grosses surprises désagréables. Donc, on va reprendre les sorties.
C'est vrai.
Mais oui. il faut s'attendre. Nous vivons une époque où il faut s'attendre à tout. Voilà. Donc, j'espère pouvoir réaliser une petite sortie qui faisait énormément plaisir aux gens. C'était la sortie en respirer un bol d'air en lisière de forêt de la coulée verte, très agréable. Et bon, ben on continue. De toute façon, on n'arrête pas. Hein. Ce sont des sorties récurrentes et bon, les gens attendent, les personnes attendent avec ça impatiemment de pouvoir changer d'air.
Vous êtes un petit peu plus heureuse que ces derniers temps, parce que maintenant vous êtes sûre d'aller au bout des premières actions.
Ouais, quand je m'engage quelque part, quand je m'engage dans un mouvement ou quand je m'engage dans une action, si je sens que je ne vais pas aller jusqu'au bout, je ne la fais pas. Donc mon engagement, il est entier, je suis une personne entière. C'est-à-dire quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Sinon, je ne prends pas et je ne fais pas.
Une question pour Bernard Ménès.
Oui.
Chaque année, c'est systématique, les fameux polymusculés 63 répondent toujours présents. Vous également, vous vous sentez pousser des ailes, hein, malgré tout.
C'est-à-dire que nous, c'est une association qui a un club de foot qui fait des matchs d'exhibition, oui, pour le plaisir des spectateurs. Et quand il y a un peu d'argent qui rentre, il va aux handicapés. Tous ceux qui travaillent chez les polymusclés sont tous entièrement bénévoles. Même quand je me déplace, je ne me fais pas rembourser l'essence ou des choses comme ça. Et
c'est tout à votre honneur, là. C'est bien de le dire. C'est vraiment
sur les pièces jaunes, j'en avais entendu des belles et des pas mûres. Hein, voilà, bon. Alors, nous, non. Et alors, pendant le Covid, on a eu en effet peu de matchs, très très peu, mais nous avons aussi une activité parallèle de théâtre. En particulier dans la ville de Cézanne, où on a un de nos membres, Henri-Paul Ferbeuf, organise deux fois par an des séances théâtrales. Et la recette, une partie de la recette, parce qu'il y a une recette qui va au producteur de la pièce, mais 20% à peu près de la recette repart chez les polymusclés, donc chez les handicapés.
C'est très très bonne initiative.
Ah ben, ça fait 20 ans que ça dure. Hein.
Ouais, non, mais non, mais c'est génial.
Quel engagement.
En gros, le théâtre répond présent.
Bah, le théâtre qu'on veut bien organiser.
Oui.
Et il faut arriver aussi à convaincre les tourneurs,
c'est
les producteurs, de bouffer leur marge au profit de l'association. Mm-hmm. Voilà. Alors, on ne pourrait pas vivre de ça à longueur de l'année, mais un spectacle de temps. Par exemple, en ce moment, je tourne depuis le mois d'août avec la pièce de Camoletti, Duo sur canapé, oui. Avec comme partenaire principal Michel Guidoni, qu'on connaît bien, du Théâtre des Deux Ânes, un imitateur, le sosie officiel de Sarkozy, si on peut dire. Mais sosie dans pas dans la gestuelle, pas, oui. c'est pas, il n'a pas sa carte de membre de parti. Hein. Et c'est un humoriste. Et Caroline Munoz, qui travaille aussi à la télévision. Et nous jouons par ici et là. Et par exemple, en octobre, à Cézanne, pourtant on est 5 en scène, dans une petite salle de 250 places, on a réussi à sortir 1500 euros pour l'association Les Polymusclés. Parce que tout le monde a fait un effort. Tout le monde a fait un effort pour ça. Et d'ailleurs, je me permets de préciser que cette pièce de théâtre Duo sur canapé va être jouée tout le mois d'août et jusqu'au 15 septembre au Théâtre de l'Alhambra à Paris. Voilà, en fin de semaine.
Pas de vacances.
Hein ? Pas de vacances. Ah ben,
parce que le théâtre, si vous êtes là.
J'ai un comédien de théâtre, de cinéma, de télévision, ou même un chanteur, vous savez, les vacances, souvent, on n'aime pas trop ça. Parce que ça veut dire que, ça veut dire qu'on ne fait pas. Rien, quoi. Alors, si, en fait, on répète, on travaille, on prépare. En ce moment, je prépare. Je dois jouer. Avec Vacandi, donc samedi 25,
plus tôt. Il sera sur le terrain.
Je vais essayer. il faut pas que j'ai le pied abîmé comme Nadal. Ouais. Alors, le samedi 25 juin à Puteaux. Le lendemain, notre association va jouer un match à Forbach contre les anciens de Metz.
Dans l'est de la France.
Pas la porte à côté. Ouais. Et le surlendemain, au soir, moi, je vais jouer au théâtre Duo sur canapé au Cap d'Agde.
Oh là là, c'est vraiment la pointe du sud.
Et entre-temps, il faut que je répète le lundi après-midi pour jouer le lundi soir, là-bas. Alors, vous voyez, ça fait des kilomètres. Voilà.
Non, mais puis surtout, ça fait beaucoup d'activités. Hein.
Oui, il faut préparer tout ça.
Ouais, c'est vrai.
Et ça entretient la jeunesse. Hein.
Répéter, préparer, que ce soit. Et c'est vrai que on a reçu récemment Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul Belmondo, parce que Jean-Paul Belmondo est un peu à l'origine de l'existence des Polymusclés en 1963. D'accord. Ça a été créé avec lui, avec Drucker, avec Sacha Distel, avec Claude Brasseur, etc. On essaye de l'intéresser à notre mouvement parce que je pense que ce serait bien que le nom de Belmondo soit accolé.
Associé, tout à fait.
Si jamais il peut venir, on va lui signaler cette journée à Vacandi et on va voir s'il peut venir faire un saut. Je vais voir avec lui.
Nasser ?
Oui, moi je suis toujours impressionné d'écouter tout ça, d'écouter un peu les activités qui sont proposées par Malika et tout son orchestre, parce que ça devient un orchestre, ça devient quelque chose d'énorme.
Oui,
nous sommes devenus indissociables. Hein.
J'ai vu ça. Non, mais c'est toujours impressionnant de voir le travail qui est fait pour les personnes qui ont des grandes difficultés.
Notre secrétaire, Valérie Cruet, son enfant est lui-même handicapé. Et Christian Baltos, notre secrétaire général principal a eu un enfant pendant 40 ans qui vivait dans des conditions épouvantables, prostré, et qu'il n'y avait rien à faire sinon que de s'occuper de lui jusqu'au jour. Malheureusement, il nous a quittés.
C'est
un sacrifice terrible pour la famille. Pour Christian Baltos et pour sa femme, Ilka.
Je vais pas raconter mes problèmes, mais je sais que c'est terrible, c'est tellement. Oui, bien sûr.
Il a une fille handicapée.
Et il y a que ceux qui sont dedans qui peuvent comprendre. Et donc, quand tu vois des gens qui viennent et qui interviennent pour des gens, pour les aider, pour les sortir de leur vie, de leur quotidien, c'est extraordinaire parce que tu n'as pas ça dans le parcours, du moins dans les gens qui t'entourent ou dans ce milieu social qui existe avec des espèces de complications qui sont là et qui font que tu ne peux pas. En France, c'est compliqué.
Ouais, les discriminations. Ah, puis, il y a un état d'esprit exactement de beaucoup ça. De gens tout à fait qui pourraient... Moi, je n'ai pas d'handicapé proche dans ma vie, mais ouais. Ça, si, j'ai quand même un petit cousin, une petite cousine. Mais je veux dire, ce n'est pas difficile d'abord d'être sensibilisé. Après, il y a le problème du monde dans lequel on vit. C'est un monde souvent de pognon. Et il y a beaucoup de gens, être bénévole pour eux, c'est perdre son temps. Je vois, moi, il y a certains footballeurs très connus que j'ai sollicités. Mmh. Pour eux, c'est de la perte de temps et d'argent que de s'occuper de ça. Et ça, c'est dramatique. Humainement, c'est dramatique.
Complètement. C'est un triste état d'esprit. Mmh. Je trouve qu'à l'heure actuelle, le regard des autres n'évolue pas assez rapidement par rapport à ces personnes.
Je pense que c'est encore pire. Pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire que ce qui s'est passé.
Moi, je l'ai vécu. Vous savez, quand j'emmène les personnes, je voyage avec les personnes handicapées, le petit groupe, et je rentre dans le train TGV, etc. Ouais. Donc, des fois, on n'a pas toutes les places en carré, parce que je fais en sorte d'avoir un carré, etc.
Ouais, bien sûr.
Et bien, des fois, il y a des personnes qui sont à côté des personnes soi-disant normales. Je me demande ce que c'est que la norme. Ben, elle se lève, elle change de place.
Bien sûr.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Partage
ça. C'est... Voilà.
Très bien. On va marquer si vous le permettez, une première pause.
Oh, bah oui.
Alors, je vous le rappelle, donc, l'invité. mes invités, donc, Alika Attaf et Bernard Ménez, pour ce trophée Vacandis. C'est la 6e édition déjà. Bien entendu, c'est programmé pour le samedi 25 juin 2022. Bien entendu, cette émission, vous la réécouterez également le dimanche 19 juin prochain. C'est juste pour vous permettre également de l'écouter à J-8, comme on dit dans le jargon. Et c'est aussi un moyen de vous faire ce qu'on appelle la piqûre du rappel quand il restera une toute petite semaine.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Les dossiers de Fou de Sport.
Dossier de Fou de Sport en compagnie de Malik Attaf, Bernard Ménez, à l'occasion de la 6e édition du trophée Vacandi qui se déroulera le samedi 25 juin au stade Léon Rabot à Lille 2, Puteau. On a parlé il y a quelques instants de ce problème majeur que rencontrent les enfants handicapés et qui ont vécu un moment très, très compliqué, notamment cette fameuse période des deux années
Covid.
Covid, oui.
Et aujourd'hui, tant bien que mal, les acteurs, ceux qui sont sur le terrain, essayent de reprendre le dessus pour ne serait-ce que redonner un petit sourire à ces enfants, mais également, et je n'oublie pas, à leurs parents, parce que, attention, il y a des parents qui souffrent beaucoup s'ils doivent gérer leur enfant. Est-ce qu'ils vont gérer leur carrière, la vie de leur enfant, etc. Il y a des personnes comme ça qui vivent de véritables drames. On n'en parle pas parce que... ça fait partie des... Est-ce que je vais utiliser le mot peut-être un petit peu sauvage. Maladie de la honte. On n'en parle pas. On cache. Parce que ceux qui se trouvent dans des situations où ils n'ont rien, eh bien, pour eux, le monde leur appartient. Ceux qui ne sont pas dans leur moule, dans leur bulle, eh bien, ils n'ont qu'à disparaître. C'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité, Malika.
Tout à fait, c'est une réalité. Malheureusement, heureusement qu'il y a des personnes bienveillantes qui pensent autrement, parce que moi, mon frère handicapé, je le considère comme un don. Oui. J'en prends soin. Hier j'ai fait l'aller-retour Paris-Normandie pour lui offrir un petit séjour de vacances où il va se détendre parmi les animaux de la ferme.
Magnifique.
Il va revenir en pleine forme là, justement le centre où il va, le foyer d'accueil médicalisé à Colombes me dit lorsqu'il revient de vacances de Normandie, il est très détendu. Donc c'est une réussite. Et chaque année, je l'envoie là-bas. Donc, il attend avec impatience. Et les gens là-bas sont habitués à le recevoir. Et ils l'attendent également avec impatience. Donc lui il se repose et moi j'ai un petit moment de répit aussi.
Non mais Malika, entre nous, même Bernard va être d'accord avec moi puisque lui il tourne dans toute la France en tant qu'acteur de théâtre. En France, il y a des endroits magnifiques, il y a des structures fabuleuses et je pense que pour peu que celle-ci soit démarchée, elle serait ravie d'apporter ces petits moments de bonheur à ces personnes.
Bah écoutez, pour la famille Madame Cavelier qui reçoit mon frère chaque année, c'est une. Alors je vais vous expliquer son cas. C'est une personne qui travaillait à l'APU de la Boucle de la Seine.
D'accord.
Où j'étais administrateur, qui gère 26 services et structures au niveau du handicap mental dans les Hauts-de-Seine. Donc elle était aide médico-pédagogique. Elle venait de Normandie pour travailler à Colombes chaque jour, aller-retour.
Chaque jour.
Une fois à la retraite, ces personnes-là lui manquaient. Elle avait un domaine en Normandie. Elle a transformé en gîte et elle accueille chaque année quelques personnes chez elle. Voilà, avec les animaux, la ferme, etc. Donc c'est vraiment un plaisir. Et moi, je sais que mon frère, quand je lui parle, je lui dis on va aller chez Yvette, il est heureux comme tout.
Parce que cette dame a su faire de son expérience professionnelle un concept pour l'après.
Tout à fait. Elle accueille, chaque année, elle accueille des personnes et l'été, elle ne prend pas plus de 6, 7,
oui, oui. 7 minutes. Oui, parce que c'est important.
C'est
oui,
vraiment,
oui, oui.
C'est, voilà, ouais. C'est avec un encadrement serré, donc, parce qu'elle prend du personnel aussi, parce qu'elle ne peut pas tout assurer elle-même. Mais vraiment, c'est vraiment un accompagnement, un réel accompagnement digne de ce nom. Et vraiment, elle fait tout pour que ces personnes trouvent leur place.
Eh ben, je vais arriver à ces fameuses questions qui fâchent. Vous savez, moi, quand je commence à parler, je débite au fur et à mesure. La question qui fâche, c'est que fait le politique dans tout ça?
Bah, il ne bouge pas trop. Hein, donc,
voilà, oui.
C'est toujours pareil. Hein. Vous savez que, je regardais les chiffres tout à l'heure. Donc, moi, je ne regarde plus les chiffres parce qu'ils me donnent le vertige. Donc, en plus, avec cette crise du Covid, avec les personnes qui ont été injectées, donc les personnes invalidantes qui sont devenues handicapées, ils sont venus grossir les chiffres déjà qui existaient. Donc, ça, c'est l'horreur. Donc, moi, je ne regarde plus les chiffres de vertige. Mais la France est toujours restée, au niveau de l'Europe, la France est toujours restée la mauvaise élève. Voilà, en France.
Et pourquoi ?
Donc, c'est un choix politique. Hein,
d'accord. Que si vous voulez, okay.
Pour moi, c'est un choix politique. Hein.
Quels sont les pays qu'il faut prendre en exemple aujourd'hui?
Alors,
au niveau européen.
les pays nordiques et l'Italie également. L'Italie,
oui.
Curieusement, l'Italie vraiment attache une place importante à ces personnes-là. Voilà. Donc.
Non, mais c'est bien parce que j'apprends des choses là. Hein. Oui, Bernard.
Il faut dire qu'il y a toutes sortes de degrés du handicap.
Bah bien sûr, tout confondu.
Très
auditif,
léger et
oui.
D'autres plus approfondis. Et évidemment, quand les degrés sont relativement légers, il faut quand même savoir que des gens qui sont handicapés sont conscients qu'ils sont handicapés, parfois. Et donc, ils sont conscients, donc ils sont conscients de leur faiblesse par rapport aux autres. Et ils sont évidemment très sensibles à l'attention qu'on leur porte. Ils comprennent qu'on est en train de leur faire du bien. Ils sont très sensibles. Là, ce samedi 25 juin, pour Vacandi, là, les polymusclés, Malika me disait, nous, on va jouer contre une équipe d'handicapés.
Des personnes handicapées, mentales.
Donc, on joue pas la gagne pour aller mettre des buts et tout.
C'est le contraire, plaisir.
D'ailleurs.
Bah
oui. Au contraire, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand dans l'équipe d'en face des handicapés, il y en a qui arrivent à faire des bonnes passes ou à marquer des buts ou à être à l'origine d'un but. Ils se rendent compte de leur influence, de leur responsabilité, de leur potentiel et de leur responsabilité.
Ben oui, une passe, le coach connaît bien, une passe décisive, un beau centre. Ben oui, c'est l'intelligence du sport.
Oui, mais ces personnes-là, celles qui vont jouer contre Bernard le 25 juin, ce sont les personnes handicapées en situation de handicap mental du USA Clichy.
D'accord.
Voilà. Donc ils travaillent, je crois qu'ils jouent en championnat. C'est comme celle de Rueil, le FC Rueil Malmaison.
Ouais.
Football Club Rueil. Ils jouent en championnat. Ils ont gagné. Ils ont bien joué.
Ils avaient gagné.
Ils avaient gagné.
Mais ils avaient gagné. Non pas en se mettant de côté pour laisser passer le ballon, non.
C'était sérieux.
On essayait.
Eux, ils étaient sérieux. Ils jouent au championnat.
Ah oui. Oh là.
Ah oui, bah, ils sont encore plus motivés que les autres. Mmh. Alors maintenant, si on reparle de politique, c'est vrai que à chaque campagne électorale, tout d'un coup, ils se réveillent et ils disent « Ah, mais une cause quasi prioritaire sera la cause du handicap. » Mais une fois que l'élection est passée, c'est vrai que ça reste lettre morte.
Ce sont les oubliés de notre société.
Bernard, je vous l'avoue, parce que je suis beaucoup la campagne électorale, notamment des législatives. Moi, je suis en Normandie, donc je connais le terrain. Et ben, de tous les candidats que j'ai reçus, je crois que j'en ai reçu 10, ben, pas un n'a parlé du handicap.
Ah, oui.
Ce sont les oubliés juste, de la société, c'est tout.
C'est vraiment... Je vous le dis aujourd'hui en tant que témoin.
Ils sont pas assez nombreux à aller voter, donc ça ne rapporte pas trop électoralement parlant. Mm-hmm. Alors voilà, c'est aussi simple que ça.
Non, mais ce qui est marrant, ce qui est fou, c'est que je vous écoutais depuis tout à l'heure, et je pensais toutes les années que vous êtes venus, à chaque fois que vous êtes venus, vous avez soulevé ce problème-là, le problème de la reconnaissance de l'handicap dans les milieux sociaux... Et on se rend compte, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après, il faut comparer avec, je ne sais pas, l'Allemagne, l'Italie...
C'est toujours le parcours de combattant en France.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas intégré dans une loi pour obliger que la notion de l'handicap soit réellement prise en compte? L'aide à ces gens-là, il n'y en a pas. Les conditions d'accueil ou d'établissement qui peuvent accueillir ces gens, il n'y en a toujours pas. Ça coûte de l'argent à la société peut-être, ou ça coûte cher ou pas cher.
Disons qu'il y a, timidement, ils ont fait des tentatives sous les différentes présidentielles antérieures, et c'était des lois qui demandaient un quota minimum d'emploi dans des grosses entreprises pour
la loi sur l'égalité des chances. Mm-hmm.
Mais ça reste très mineur, c'est-à-dire très marginal.
Mais justement, Bernard, j'abonde dans votre sens en disant que certaines structures préfèrent payer l'amende plutôt que de respecter ce fameux
par exemple. Exactement. Par exemple. Pourtant, elle est conséquente, l'amende.
L'accès au logement pour ces gens-là, c'est comment?
C'est difficile aussi. Moi, j'ai aidé une personne à avoir un logement en tant que personne handicapée. On dit qu'elles sont prioritaires, mais prioritaires, c'est bien beau de le dire. Il faut voir la réalité. C'est difficile. C'est toujours pareil.
Oui, parce derrière, il faut un logement adapté. Il y a les normes qui sont liées à l'accès, par exemple, à la porte d'entrée. Généralement, ils veulent un logement rez-de-chaussée. Ils peuvent pas, sauf à mettre un ascenseur adapté également à ces personnes handicapées. Derrière ça, il y a aussi cette histoire de revenu minimum. Si la personne handicapée est à 800 euros par mois, mais vous ne rentrez pas dans les critères, vous n'avez pas assez, etc. Et tout. Bref, la personne se retrouve à la charge de la famille.
Ben oui, ça, toujours.
Discriminé, toujours discrimination.
Voilà. Et alors, je voudrais être encore plus fort parce que, vous savez, moi, plus l'émission avance, plus, on va dire, ça sort comme ça de manière assez instinctive. Oui, exactement. Parce qu'il y a ces matchs. Parce que le sport, c'est ce qui est le plus beau. C'est le sport parce que vous êtes. Avec toutes vos capacités physiques, intellectuelles, mentales, tout ce qui va avec. Donc, quand on organise un tournoi comme celui-là, ou plutôt une journée sportive comme celle-là, c'est pour également attirer l'œil de ceux qui sont valides.
Bien évidemment, c'est un moyen de communication. C'est l'objectif, c'est de communiquer autour des handicaps en faisant comprendre aux gens que aujourd'hui ils sont bien, demain ils peuvent être handicapés.
Ça,
ils ne sont pas à l'abri d'un handicap.
C'est
une communication, c'est une campagne de communication cet événement autour du handicap. Mais personne n'est à l'abri.
Tant qu'on le dit pas, tant que les gens ne vont pas l'avoir autour d'eux, de leur famille ou les gens, on a l'impression qu'on va vivre éternellement et qu'il va jamais rien se passer. Mais le jour que ça t'arrive chez toi, direct. Tu rentres dans les méandres de...
Il y a eu une petite prise de conscience...
J'aime bien « petite ».
Qu'on comprend mieux. Oui. Actuellement, c'est les Jeux Olympiques
paralympiques.
Paralympiques,
parce que, autrefois, moi, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, où ça n'existait pas, où c'était...
très marginal.
Très marginal. Aujourd'hui, c'est des jeux qui commencent à passer à la télévision, que, et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont eu un... qui sont exemplaires, parce qu'ils ont eu un courage énorme pour arriver à... Je voyais l'autre jour, Roland Garros, malheureusement, ils n'en parlent pas assez, mais je voyais un match de finale en fauteuil. D'accord. En fauteuil, et c'est avec une règle particulière, c'est-à-dire que ils ont droit à deux rebonds au lieu d'un, puisque le temps d'aller à la balle est un petit peu plus long. Voilà. C'est donc, et c'est, non, mais c'est ouais, par contre, ça joue bien. En général, c'est des gens qui jouaient quand ils étaient en
valide,
bonne santé,
ouais.
Et puis ils ont eu un accident, la vie les a... Parce qu'il n'y a pas que le handicap de naissance, il y a les handicaps accidentels.
Oui, tout à fait.
Et AVC, ils sont nombreux. Hein.
Surtout les AVC, Malika, c'est ça qu'il faut parler.
Oui, ouais. Les AVC.
Les gens se retrouvent là et en une heure après, ils se retrouvent avec...
Nous sommes toutes des personnes potentiellement handicapées.
Il faut leur dire.
Ah oui.
Qu'ils le sachent, les gens.
Ah oui. Et c'est pas intégré, ça, c'est malheureusement.
Mais c'est toujours qu'ils le sont, qu'ils
toujours,
vont demander.
Ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. Hein.
C'est ça, bien sûr.
C'est parce que ce sont des personnes qui vivent, on va dire, dans un paradigme différent d'une autre. Ils sont sur une autre planète. Voilà, moi, c'est comme ça que je décris ces gens.
Ouais. Ah oui.
Je ne sais pas si on peut joindre Christian.
Oui, bien sûr.
On parlait très bien. Son cas est exemplaire. Alors là, c'est le handicap de naissance. Et je préfère le laisser parler lui-même.
Absolument. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants, justement.
D'accord.
On marque après une seconde pause. Et on aura notre invité qui, lui, va vraiment nous expliquer sa situation en détail.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Allez, troisième et dernière partie de cette émission consacrée donc au polyhandicap avec le sixième trophée Vacandi en compagnie d'Amalika Ataf et de Bernard Ménez. Les polymusclés 63. Sans oublier, avant de prendre notre invité, en l'occurrence Christian Baltos en direct par téléphone, juste. Une précision pour nos auditeurs. Je vais lire ce message. Il est signé de notre ami Farid Guerfi et qui précise d'ailleurs l'objectif de cette journée à laquelle nous participons avec Malika depuis plusieurs années, c'est le brassage des populations, faire prendre conscience aux valides de la difficulté de nos amis handicapés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on invite un maximum de politiques également pour essayer de faire changer les lois. Voilà, Farid, le message étant lu. Nous allons prendre au téléphone Christian Baltos. Christian Baltos, bonsoir, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation de Beurre FM.
Bonsoir, je vous remercie de m'avoir appelé, et puis bonjour à tous ceux qui sont là, puis à Bernard.
Secrétaire général des polymusclés. Hein.
Ah, vous êtes Bernard vient de me le dire, vous êtes le secrétaire général.
Oui, absolument.
Bon, très bien, Christian Baltos. Alors, j'aimerais bien justement que vous nous expliquiez votre situation, votre cas, puisque Bernard m'a touché quelques mots en aparté, et je voudrais que votre témoignage soit le plus fort possible.
C'est-à-dire que j'ai été père d'un enfant handicapé que nous avons perdu il y a trois ans. Et donc on l'a élevé pendant 47 ans et que effectivement il n'y a pas beaucoup d'établissements qui soient rassurants. Je suis désolé de dire ça, mais parce que je pense que l'État ne fait pas son travail, enfin pas suffisamment en tout cas, parce qu'en fait tous les centres pour enfants handicapés, c'est souvent le résultat d'une association de parents qui ont provoqué ça. Après c'est repris par les pouvoirs publics, mais je vois le centre était mon enfant qui était très moderne. Il y avait un médecin qui venait une fois par semaine et c'est tout. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de médecin la nuit s'il y a une urgence pour un patient. Et il n'y a jamais de kinésithérapeute, ils font des demandes, mais les jeunes qui sortent des études de kinésie ne viennent pas parce que c'est très mal payé, très peu, voire c'est à la limite du bénévolat, donc ça les intéresse pas de commencer une carrière comme ça. Donc voilà, ce sont des lieux qui sont sur un plan d'architecture et de technologie de pour le l'aide de ces gens-là qui sont bien, mais ils n'ont pas le personnel et les gens sont débordés parce que c'est du, les gens qui s'occupent sont pas, n'ont pas de formation d'infirmière. Sont des gens qui sont là, qui nettoient les ceux qui ont besoin d'être nettoyés, qui font les lits, qui font le ménage et tout, mais qui n'ont pas de qualification sur le plan de la santé et puis même de pédagogie, parce que c'est quand même des cas psychiques très 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 lourds. Leur environnement, leur vie est très très dure. Quoi.
Si j'ai bien compris, Bernard, pardon, Christian, et même Bernard est témoin, c'est que il y a un manque flagrant de personnel compétent. C'est ce que j'entends là, c'est affreux.
Mais oui,
il n'y a pas de formation. C'est possible.
Il n'y a pas de formation, mais c'est surtout une histoire de budget.
Oui.
Un médecin, pour avoir un médecin en permanence, c'est un médecin de nuit. Parce que s'il y a une crise la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être rédhibitoire pour la personne en fonction de l'importance de la crise. Et il n'y a personne de médicalisé, enfin, qui a une formation médicale la nuit pour intervenir. Et même la journée, je vous dis, le médecin, il ne vient que
une
fois par semaine.
Ça rejoint le
Il donne un peu tous les soins à faire pendant une semaine à chaque résident, mais il y en avait une cinquantaine dans ce centre. Et puis il revient que la semaine d'après, mais entre-temps il peut y avoir des changements dans l'attitude du résident, ou je ne sais pas, dans sa maladie profonde, et il n'y aura pas d'intervention avant une semaine. Ça, c'est pas possible.
Vous voulez intervenir, Bernard?
Oui, parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pendant un an dans un institut médico-pédagogique, ce qu'on appelait un IMP, où j'avais sept élèves qui étaient tous handicapés relativement légers, mais enfin, c'était déjà toute la croix et la bannière pour les rassembler dans la classe. Alors, pour le reste, n'en parlons pas. Mais ça rejoint évidemment la politique de l'hôpital, de la santé. Récemment, ma femme a dû aller à l'hôpital pour une urgence. Eh bien, entre le temps qu'elle est arrivée et qu'on a commencé à faire des premiers examens et le temps où on lui a dit « Ah ben, il va falloir que vous restiez parce qu'il y a un problème », 7 heures, sans rien dire, sans personne.
Oui. Rien d'étonnant.
Dans un hôpital, un grand hôpital parisien. Alors, si vous voulez, si on doit être satisfait avec ça, on ne va pas s'en sortir. Oui, le cas de l'enfant de Christian était un cas lourd. C'est-à-dire, c'était à la naissance qu'il a vécu ça dès le début et que pendant 47 ans, il a dû s'en occuper essentiellement lui-même tout seul avec sa femme, se voyant souvent plus ou moins démuni. Alors là, je lui redonne la parole.
Oui. Allez-y, Christian.
Oui, non, mais c'est sûr que déjà nous on a tenu le plus longtemps possible pour l'avoir à la naissance, parce que ce qu'on nous proposait, il est né en 72, donc c'était encore une autre époque. Ce qu'on nous proposait, c'était des solutions en Belgique ou dans le sud-ouest de la France, c'est-à-dire que vous sépariez de votre enfant. Alors, je pense qu'au début, pour vous déculpabiliser, vous auriez été visité une fois par semaine, et puis après, ça aurait été que deux fois dans le mois, et puis après, bon, et le détachement s'est fait, nous, il n'était pas question de ça. Et puis en Belgique, encore moins, parce que depuis, j'ai vu des émissions sur ce qui se passait en Belgique. Souvent, c'était des gens qui ont hérité d'une propriété très bourgeoise, pour un château, mais presque.
Très lucratif pour eux.
Et qui ne pouvaient pas l'entretenir. Donc, la France payait de l'argent, sans contrôler comment c'était utilisé, pour qu'ils prennent des handicapés de France et qu'ils les logent. Mais quand on voit dans quelles conditions, et le gars lui permettait de payer l'entretien de son héritage, quoi. Mais dans des conditions pour les enfants qui sont innommables. C'est, même pour des animaux, ça n'a pas été possible. Alors voilà. nous proposer ça. Nous, alors nous, on a tenu le plus longtemps qu'on ait pu. Et puis, quand j'ai eu 50 ans, on nous disait, mais quand même, pensez à vous, il faudrait mettre dans un centre. Un centre est ouvert, très moderne. On a tenté. Et il se trouve qu'en un an et demi, il y a eu 6 décès. On a repris notre enfant. Et après, bon, on a retrouvé un autre centre très proche de chez nous. C'était pas mal, mais bon, il y avait tous ces problèmes dont je parle, du manque d'assistance médicale. Alors, tant que l'enfant n'a rien, ça va, mais dès qu'il y a quelque chose, c'est fatal. S'il n'y a pas de réactivité, ça peut virer au cauchemar très très vite.
Oui. En tout cas, je découvre avec Christian Batos là, cette situation. Comme le disait Chirac, abrantesque.
C'est dramatique. Oui.
Et Chirac était bien passé pour connaître le sujet de la situation.
Oui.
Bien sûr.
Qui a fini malheureusement par se suicider.
Oui.
C'est malheureux. Donc vous voyez que finalement, le handicap ne touche pas qu'une partie de la population. Il n'y a pas de choix prémédité dans le handicap. Ça peut vous frapper à n'importe quel moment de la vie.
Nous, on est tous potentiels, on est tous des handicapés potentiels.
Bien sûr.
J'ai fait 3 frères, j'étais sur n'importe, tomber de la hauteur de son corps.
Absolument.
Suffit, hein. Ouais. Bah, écoutez, maintenant, vous avez des handicaps qui sont bien déterminés. Et puis, il y a des handicaps, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas comment intervenir. Donc, ils constatent, ils sont là, ils font le minimum qu'ils puissent faire, et puis ils regardent comment ça évolue. Mais il y a des handicaps, bon, on les connaît, qu'ils soient moteurs ou physiques. On peut intervenir d'une certaine manière, ou anticiper, mais pour d'autres, c'était le cas de notre enfant. Personne ne nous a jamais dit, d'abord, on ne nous a jamais dit qu'ils sont handicapés. Ils ont été assez lâches sur le coup. Et on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi on dit c'est une chance, une malchance sur 1 million, à peu près. Bon, bah, la malchance, on l'a eue, voilà.
Alors, tout ça plutôt. Le samedi 25 juin.
Tout à fait.
Exactement.
Rendez-vous plus tôt pour soutenir la
alors,
cause.
Justement, alors Christian Baltos, vous pouvez rester avec moi en ligne. Je prends un auditeur. Je pense aussi il est concerné par le sujet. Il s'appelle Abdallah Ouf. Alors, allez. Bonsoir Abdallah Ouf.
Bonsoir Mohand. Bonsoir coach. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Malika. Bonsoir Monsieur Bernard. Donc effectivement, moi je suis concerné par le sujet et j'aimerais apporter tout simplement une chose, c'est que quand on a un enfant à mobilité réduite et qu'on veut l'inscrire dans un club de sport, donc sachez un truc, c'est que on refuse l'inscription de l'enfant dû à sa pathologie. C'est bon, on peut dire que c'est normal. Allô?
Oui, on t'écoute.
Voilà. Ensuite, en fait, si vous voulez, il y a les enfants justement à mobilité réduite, ils ne sont admis nulle part pour pratiquer une activité sportive.
D'accord.
Voilà.
Bon. Un exemple personnel.
Un exemple personnel. Alors, que malheureusement je vis au quotidien.
Voilà. Et je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais alors je vais vous dire une chose. La mairie de Puteaux, qui est vraiment très dynamique en matière du handicap, ont signé une charte avec Handisport, ce qui fait que toutes les associations sportives de la ville de Puteaux auront une section handicap.
C'est
formidable.
Ils sont très dynamiques en matière d'handicap.
Monsieur Hamzaoui, qui est directeur du pôle handicap, il est vraiment très très dynamique. Il est chapeauté par la maire de Puteaux, Madame Sekaldi Reynaud, qui est vraiment vraiment très très impliquée et très engagée dans le domaine.
Ben, ce serait bien que cette dynamique, et justement par le biais de votre événement, que ce soit général justement à tous les territoires en France.
Vous êtes où, monsieur?
Alors moi je suis dans 78.
Ah oui, donc c'est pas le 88.
Je suis à Sartrouville.
Ah d'accord.
C'est pas très loin ça.
Oui, c'est
pas loin. Proximité.
Voilà. Cormeilles en Paris, Sartrouville.
Voilà.
Ouais. Ouais, ben on est à 3,5 km de différence.
Oui, oui.
C'est important ce que j'entends là depuis tout à l'heure à travers le témoignage. Ça veut dire que il y a une prise de conscience de certaines mairies, de certaines municipalités, qui estiment que ce sont des humains comme nous tous, et ils ont juste besoin d'un peu de chaleur humaine. Ils ont besoin aussi
d'un accompagnement.
Alors, oui, si je peux me permettre, je vais vous apporter une anecdote perso également. Ouais. Moi, mon enfant qui est trisomique, donc fait, comme on dit, recopie les bonnes choses et belles choses de ses camarades de classe, et malheureusement les mauvaises choses.
Bien sûr.
Moi, j'ai mon enfant qui a été comparé par l'institutrice à un singe.
Alors, il a quel âge ?
Alors, elle a 6 ans.
Elle a 6 ans.
Non, mais te rends compte, venant de la part de l'institutrice, mais quel exemple en
c'est épouvantable.
C'est affreux ce que j'entends là-bas.
C'est horrible.
En plus,
horrible.
À 6 ans, elle commence à tout comprendre.
Eh oui. Donc, bon, on se bat, malheureusement, heureusement. Enfin, après, le fait d'avoir un enfant à mobilité réduite, il faut savoir que c'est une guerre mondiale, malheureusement, parce qu'il y a plusieurs batailles sur le point administratif avec les employeurs, sur le plan, justement, scolaire avec les écoles, sur le plan médical avec les hôpitaux, avec le CAMS, avec
le CAMS,
ils sont présents quand même. Mais en fait, avec comment on appelle ça, une orthophoniste par exemple, faut se battre pour avoir un rendez-vous et voilà.
Très bien, merci pour vos différentes interventions par téléphone. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Donc Malika, je sais que tu as des personnes à remercier. Vas-y, alors, je te laisse la parole.
Avant de remercier les personnes, je vais dire que juste rapidement, que le combat que nous menons tous est un combat pour une société solidaire et inclusive, afin que chaque personne en situation de handicap, quel que soit le degré, quelles que soient ses particularités, puisse choisir et vivre sa vie en disposant des accompagnements dont elle a besoin. Alors, je ne cesserai jamais de rappeler les paroles sages de la directrice de l'OMS en 2011, le docteur Margaret Chan, qui a dit que le handicap fait partie de la condition humaine, que chacun d'entre nous, ou presque, sera handicapé temporairement ou de façon permanente à un moment de sa vie, donc que nous devons tout faire et faire davantage pour lever les obstacles qui excluent les personnes, ces personnes-là, les contraignant dans bien des cas à vivre en marge de la société. Donc moi, je tiens tout particulièrement à remercier la mairie de Puteau qui nous accueille et qui a déployé tous ses efforts pour que cet événement soit un succès. Je remercie également SANI 92, un transport de personnes handicapées, mais pas uniquement un transport, c'est un accompagnement à la personne. Ce n'est pas comme certains transports avec qui j'ai eu des soucis et que je ne nommerai pas, qui transportent les personnes handicapées comme de la marchandise. Je tiens à remercier également les peintures Sikens Solutions, la Rotonde à Nanterre, le Vidéoclub de Rueil-Malmaison, la Croix-Rouge et bien sûr Beurre FM. Bien sûr, sans oublier Beurre FM. Il y en a plusieurs. Alors, également, je tiens à remercier toutes les équipes qui vont jouer sur le terrain et qui feront plaisir à toutes ces personnes-là. Et je vous invite tous à venir nombreux. Et j'espère que le beau temps sera rendez-vous.
À quelle heure déjà ?
À partir de 13h30.
D'accord. Et
toute l'après-midi. Et donc, une belle journée de festivités en perspective.
Très bien, merci Malika, merci Bernard.
Alors j'ai oublié quelqu'un, là je veux regarder qui m'a dit, dernier, il faut pas que je l'oublie. Oui. C'est un équipementier tout nouveau qui m'a proposé ses services et qui va contribuer qui a participé à Vacandi. C'est l'équipementier Ouapi.
Très bien. Merci Malika, merci à Bernard, à Nasser et Sofiane. Alors, merci à Christian Baltos et à Abdelraouf. Bonne fin de journée puis bon début de soirée si
Malika, au revoir Bernard.
Oui.
Au revoir et puis bientôt. Bon courage et puis écoutez, voilà.
OK.